Nous y voilà sur Radio Galère pour les carnets hebdomadaires de Comaguerre, comme tous les mardis à 14h. Rediffusion le jeudi, vous le savez, de 10 à 11. Et le podcast est accessible en permanence sur le site de Radio Galère, en cours de reconstruction, mais accessible pour les podcasts en permanence. Voilà, je suis content de retrouver Roselyne, qui est de
oui,
son
bonjour,
pupitre.
Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà. Bonjour Habib, qui
bonjour
est à mes côtés.
Bonjour Roselyne. Voilà.
Et auditrice, pardon.
Et auditrice. Voilà. Bien. Je vais commencer par des petits sujets pour donner un peu une atmosphère. La première atmosphère, assez étonnant, vous savez peut-être pas, parce qu'on nous parle beaucoup de l'inverse, que l'Arménie continue à discuter avec son voisin, c'est-à-dire son voisin ennemi, je mets les guillemets, l'Azerbaïdjan. C'est vrai, il y a quand même des pourparlers pour essayer de régulariser les affaires. Donc, il n'y a pas une catastrophe, un génocide en cours. Il y a des tentatives entre deux gouvernements voisins qui ont eu de mauvais moments à passer l'un contre l'autre, d'essayer de trouver un modus vivendi, une façon de vivre côte à côte. Et ce qui s'est passé mérite d'être dit, puisque l'Arménie, donc par la voix de son premier ministre, M. Pachinian, a décidé de rendre 4 villages qui était revendiqué par l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Effectivement, c'est chez vous. Donc voilà, il y a une liste de 4 villages, c'est dans le coin en gros nord-ouest de l'Azerbaïdjan. Et il est arrivé en disant, ben, cela on vous les rend, parce que de toute façon, là, il n'y a pas d'Arméniens, c'est chez vous, et n'en parlons plus, c'est chez vous. Bon. Mais ça, c'est une bonne chose. Alors ça, on ne vous le dit pas, parce qu'on veut mettre le feu partout. Enfin, il y a des gens, des régimes politiques et des gouvernants qui passent leur temps à mettre le feu. Alors, ceux qui veulent mettre le feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est en particulier les États-Unis, la Grande-Bretagne, et j'insiste beaucoup, la France et ses services secrets. Alors, les États-Unis, en particulier la France, s'appuient beaucoup sur ce qu'on appelle la diaspora arménienne, qui est donc le rassemblement de tous les gens d'origine arménienne qui vivent aux États-Unis et en France, et qui sont plutôt portés vers une espèce d'attitude agressive vis-à-vis à la fois des Azéris, à la fois des musulmans. Enfin, tout ça est compliqué. Enfin, le résultat, c'est qu'eux, ils seraient très contents que les Arméniens qui habitent à Erevan et autour aillent se battre contre les Azéris en comptant les points depuis leur fauteuil. C'est un peu ça qui est critiquable. Je le critique parce que je pense que c'est très, très incorrect de mettre le feu alors dans mon ancienne patrie et de laisser les autres s'entretuer en disant « Oh mon Dieu, comme c'est triste, s'entretuer, et c'est de la faute des uns et c'est la faute des autres ». Ça, c'est très, très désagréable. Et donc, moi, je me félicite que M. Pachinian, qui par ailleurs tient des discours très radicaux et justement pour avoir l'aval psychologique de la diaspora arménienne des États-Unis et l'aval de la diaspora française arménienne, sur le terrain concrètement, quand il négocie avec les Azéris, ben, il est obligé de dire, et ce qu'il a dit, ben, ces 4 villages, manifestement, ce n'est pas des villages d'Arméniens, ils sont chez vous, ben, reprenez-les. C'est une pierre blanche sur la route de la compréhension mutuelle. On s'en félicite. Et si les États-Unis, donc au nom de la diaspora, poussés par la diaspora arménienne, avaient décidé de faire monter la température entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est qu'ils voulaient créer là un abcès de fixation pour embêter les Russes. Pourquoi embêter les Russes? Tout simplement parce que les Russes sont voisins, qu'une bonne partie des Arméniens se souviennent qu'ils ont été dans l'URSS et beaucoup parlent le russe, hein, donc il y a des fraternités, et surtout parce que l'Arménie fait partie du traité de sécurité collective qui a été signé entre la Fédération de Russie et un certain nombre d'autres pays de l'ancienne URSS. Et donc à ce titre de ce traité, et donc l'Organisation commune de sécurité collective, ça s'appelle, au titre de ce traité, la Russie s'engage, la Fédération russe s'engage à intervenir militairement si jamais le territoire de l'Arménie était envahi. Mais évidemment, la Russie ne va pas intervenir s'il y a 4 villages azéris qui sont d'Azerbaïdjan et que l'Arménie revendique. Donc c'est évident qu'elle ne le ferait pas, et d'ailleurs elle a refusé de le faire puisqu'elle a dit « là, c'est chez eux, n'en parlons plus ». Et donc, j'ajoute à ça le commentaire donc, de M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui, à propos de cette évolution positive, donc, qui est noyée dans un flot d'informations, elle, beaucoup plus négative, en disant « il y en a assez, des Azéris », enfin, ce discours de la diaspora, à la fois en France et aux États-Unis, M. Lavrov a dit « mais nous soutiendrons et nous défendrons nous-mêmes l'Arménie » dès l'instant où elle aura bien précisé ses frontières. J'insiste la formule. Dès l'instant où vous dites, ici, chez moi, de l'autre côté, c'est l'Azerbaïdjan, de l'autre côté, c'est la Turquie, le troisième côté, c'est la Géorgie. Dès l'instant où vous avez stabilisé vos frontières et que vous n'allez pas dire, ah oui, mais là, il y a un village avec quatre Arméniens, il est à nous. Hein, dès l'instant où vous arrêtez ce discours, vous dites, les frontières de l'Arménie, elles sont là. La Russie respectera le traité de sécurité collective. Mais vous ne nous emmènerez pas sur des chemins douteux. Vous dites, ah, pour telle et telle raison historique, il y a mille ans, ceci, cela. Là, on n'ira pas. Hein. Vous avez des frontières respectées, reconnues, que nous reconnaissons. À ce moment-là, on vous défend au cas où. Hein. Mais en plus, en disant ça, Lavrov sait très bien que l'Azerbaïdjan, une fois que les frontières seront clarifiées, certifiées, approuvées par tout le monde, l'Azerbaïdjan restera tranquille. Parce que par ailleurs, la Russie a aussi des moyens de discuter avec l'Azerbaïdjan, avec lequel il y a aussi des liens, aussi... Pas tout, oui, aussi ancien, puisque l'Azerbaïdjan faisait partie de l'URSS. Vous voyez, ça reste en famille, on se connaît. Alors, on a suivi des trajectoires différentes entre Azerbaïdjan, Arménie, Russie, etc. Mais on se connaît, on a l'habitude de travailler ensemble. On a l'habitude, même on se parle russe dans les réunions. Ça facilite quand même les contacts. Et puis, on se voit, il y a juste une frontière à traverser. On se téléphone, etc. Il faut savoir, par exemple, je vais vous donner un exemple très, très pratique, que vous savez que les Russes qui vivent aujourd'hui en France ont de la difficulté pour aller dans leur pays s'ils veulent y aller pendant les vacances. Puisque les frontières sont coupées, il y a presque plus de vols et tout. Ben, je vais vous dire que c'est très très facile. Un Marseillais qui veut aller en Russie pour voir sa famille, il prend un vol pour Erevan en Arménie, et depuis Erevan, il a un vol sur Moscou sans problème, et on ne lui demandera rien. Ouais. Donc, comme quoi, il y a aussi...
C'est un peu comme les Arméniens, voilà. Quand ils partaient en Arménie, voilà. Ils passaient par Téhéran.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, dans la vie quotidienne, ça existe. Et donc, j'insiste là-dessus parce qu'il faut arrêter de faire des affaires, des conflits potentiels, parce que ça intéresse les États-Unis, la Grande-Bretagne et surtout la France, j'insiste là-dessus, de compliquer les choses et de faire des problèmes autour de la Russie aussi longtemps que possible et aussi souvent que possible. C'est un petit cas, mais c'est très intéressant de voir que sur le terrain, concrètement, M. Pachinian, qui rêve d'être un pro-américain reconnu, etc., il perd son temps et en fait, en même temps, il va négocier en disant « ce village, il est en Azerbaïdjan, puis n'en parlons plus ». Bon, c'est le bon chemin, c'est ça qu'il faut faire.
Il avait un penchant quand même vers l'Occident.
Ah oui, oui, ah oui, et puis voilà, et puis qui a été cultivé. Je veux dire, on a dit, lui, il n'est pas stable, il n'aime pas trop les Russes et tout, il s'est fâché. Hein. On le considérait d'ailleurs, les États-Unis ont contribué à son arrivée au pouvoir, quand même, faut le savoir. Donc, on pensait que les États-Unis, donc le département d'État, pensait qu'ils allaient le mettre dans leur poche. Bon, ce n'est pas tout à fait ça, parce que sur le terrain, il n'y a pas de citoyens des États-Unis. C'est compliqué, la situation-là. Ça fait des centaines d'années que c'est compliqué à cet endroit-là du monde. Tout ce qui est la zone du Caucase, c'est compliqué là aussi. Bon, eh bien, ils s'habituent et ils se respectent les uns les autres. Et la meilleure façon de se respecter les uns les autres, c'est de dire la frontière, elle est là. Toi, tu es ici, moi, je suis de l'autre côté, et on n'en parle plus. C'est terminé. Bon.
Quand on dit fixer les frontières de l'Arménie, est-ce qu'il y a encore des parcelles qui appartiennent à l'Arménie, en Azerbaïdjan?
Pratiquement, alors, rien n'appartenait. Alors, j'insiste, en droit, rien n'appartenait à l'Arménie. Il faut savoir que la fameuse province qui s'appelle Artsakh ou Haut-Karabakh, il y a les deux appellations, était une zone à l'intérieur même de l'Azerbaïdjan qui était peuplée, un certain nombre de villages qui étaient peuplés par des Arméniens pratiquant la religion arménienne, parlant l'arménien entre eux. Bon, ça c'était clair. Mais au nom de ça, l'Arménie avait dit... J'étends mon territoire à cet endroit-là de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire, puisque là, il y a des Arméniens qui parlent arménien, qui pratiquent la religion arménienne, qui sont là, je dis que le territoire de l'Arménie, c'est là. Et l'Azerbaïdjan me dit, mais il n'en est pas question, ce territoire, il est à moi, il est reconnu, la frontière, elle est là, ils sont là. Bon, et donc, ça a dégénéré une première fois, et ça a fait une guerre dans les années 90-94, une guerre que l'Arménie a gagnée militairement, il faut s'en souvenir, et elle s'est crue autorisée à dire, ah ben, c'est comme si j'avais annexé un morceau de l'Azerbaïdjan. Mais ça n'a jamais été acté par personne, et surtout pas par la Russie, qui a dit non, non, là, vous êtes allé vous étendre, vous avez demandé l'avis de personne. Le Haut-Karabakh ou l'Artsakh, donc dans le vocabulaire, dans la langue arménienne, n'a été reconnu par personne. Aucun pays du monde, et l'ONU encore moins, n'a dit ça fait partie de l'Arménie. Personne ne l'a dit. Donc, ils pouvaient dire ça très très longtemps. Et à un moment donné, ça s'est passé donc, pendant l'été 2022, on s'en souvient. L'Azerbaïdjan dit maintenant ça suffit, hein. J'envoie des troupes et les gens qui sont là, ben, ils s'en vont ou ils restent, mais ils se déclarent plus arméniens, c'est plus une province de l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan où il y a à cet endroit-là des habitants arméniens. En foi de quoi ? Et le résultat, ben, ça peut s'expliquer parce qu'il y a quand même eu des conflits entre les communautés. Les Arméniens de cette région sont partis.
Alors, ouais, il y a eu quelques... grâce à l'armée russe.
Protection de l'armée russe qui était là pour éviter que ça dégénère. Ça a un tout petit peu dégénéré, mais je crois qu'il y a eu une douzaine de morts dans les bavures au moment de ce transfert de population.
Ouais, parce qu'il y a plus de 100 000.
C'était beaucoup. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, ils sont rentrés, ils sont maintenant en Arménie ou ils sont partis ailleurs s'ils ont voulu. Ils sont rentrés chez eux. Bon, donc cette affaire-là, du point de vue du droit international, comme du point de vue de la Fédération russe, elle est parfaitement réglée. Donc, on n'a plus à en parler. Et moi, je me félicite que, par petites bribes comme ça, c'est pour ça que je me suis arrêté
c'est
à cette dépêche,
bien, c'est
on dit que ben, l'Arménie a reconnu que ces quatre villages là, qui sont dans le coin en haut de l'Azerbaïdjan, et ben, c'est en Azerbaïdjan, puis on n'en parle plus. Même s'il y a peut-être encore 3-4 Arméniens qui vivent là, ben, ils viendront de l'autre côté, on ne leur fera pas de mal, on n'en parle plus. Ça, c'est la première nouvelle intéressante. La deuxième nouvelle, qui n'est pas très intéressante, mais qui est bonne à décortiquer, concerne le Niger. Alors le Niger, vous savez, le troisième dissident donc, de la bande du Sahel, le dernier des trois, donc le premier étant le Mali, le second le Burkina Faso et le troisième le Niger, vous savez que s'honore, j'allais dire, enfin, j'emploie le terme mais il est excessif, d'avoir la plus grande base de drones des États-Unis dans le monde.
C'est
non seulement en Afrique, mais dans le monde. Hein, c'est la base d'Agadez qui est occupée par un millier de soldats des États-Unis qui a coûté, je crois, 250 millions de dollars pour être installé. Et à partir de cet endroit-là, donc, qui est au nord du Niger, l'armée des États-Unis, avec ses drones, peut à la fois intervenir et tirer sur quelqu'un, surveiller, faire des photos, etc., lancer des missiles, tout ça est possible. Ouais. Alors, le gouvernement du Niger a demandé à ce que les États-Unis quittent, l'armée des États-Unis quittent leur territoire. Bon, c'était normal qu'il le fît. Et quelle est la réponse ? C'est là que ça va devenir très, très amusant. Alors, la réponse est venue, alors, très curieusement, d'une dépêche qui vient de Naples. Alors, pourquoi Naples ? C'est Naples qui répond. Alors, parce qu'à Naples, il y a le siège de la flotte des États-Unis en mer Méditerranée. Et à comprendre ce communiqué relatif à cette question de la base d'Agadez, ça veut dire que le militaire en charge de cette base, et le chef des militaires, il est basé à Naples, donc sur un des vaisseaux de la 6e flotte des États-Unis. Pourquoi pas ? Et donc lui s'exprime, alors il s'exprime, il est militaire, mais il s'exprime au nom du département d'État dans son communiqué. Alors faites bien la différence, hein. Lui il est salarié, donc c'est un militaire, il est salarié donc du Pentagone, de l'armée, mais il s'exprime au nom des affaires étrangères. Nuance. Et vous allez voir que la nuance, elle a d'importance. Parce que dans le communiqué qui fait état donc de l'acceptation de la demande du gouvernement nigérien, voilà ce que vous pouvez lire. Première phrase, nous sommes d'accord. Deuxième phrase, pour commencer à négocier. Nous sommes d'accord pour commencer à négocier. Troisième phrase, pour élaborer un plan d'évacuation. Alors, nous sommes d'accord pour commencer à négocier, pour élaborer un plan d'évacuation de nos soldats et de notre matériel. De façon organisée et responsable, de façon organisée et responsable, c'est-à-dire on est tranquille, cool dans un bureau, on s'offre le café, les sandwichs, on s'offre le cigare, etc. On négocie tranquillement, posément, avec toutes les mesures nécessaires de précaution, sans se fâcher, sans se jeter des tasses de café à la figure et tout, comme tout ça est gentil. Et il ajoute, alors ça c'est ce qu'on appelle la flèche. La flèche du part. Bien entendu, moi je dis ça, mais finalement, c'est pas le département d'État, c'est pas les affaires étrangères qui décident, c'est le Pentagone. Et donc, on pourra, sous-entendu, on pourra signer ce que vous voulez au bout de cette longue procédure. Nous sommes d'accord pour commencer des réunions, pour élaborer, vous savez, tout ça. Ça peut prendre 5 ans, hein, s'ils font traîner. Hein. Bon, mais après, de toute façon, c'est les militaires qui décideront. Et si au bout de cette négociation ardue, laborieuse, pénible, qui peut se faire à raison, alors quand on veut négocier et qu'on va vite, on s'enferme à un endroit, puis on dit dans 3 jours, on a fini. Et puis on fixe un calendrier, comme ils disent, de négociation, machin. On se voit une fois tous les 6 mois pendant une après-midi. Donc ça peut prendre autant d'années qu'on veut. Hein. Et in fine, on vous dit, de toute façon, c'est les militaires du Pentagone qui décideront. Donc si à la fin de tout ce travail très très important, très bien fait dans l'ordre, la discipline et la gentillesse, le Pentagone, je ris tellement, c'est ridicule. Le Pentagone dit, ben, finalement, on s'en va pas, et ben vous pourrez vous
asseoir. Comme ils l'ont fait en Syrie, voilà. En Irak.
Mais, voilà, exactement. Voilà. Hein, donc, pauvre Nigérien, vous pourrez vous asseoir là-dessus. Bon, alors, il y a quand même une... Oui, c'est... Vas-y.
Non, tu dis pauvre Nigérien, vous pouvez vous asseoir là-dessus, mais bon, moi j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. J'ai l'impression que les Nigériens, ils vont rester sur leur position,
ah
c'est-à-dire
oui, tout à fait, non,
les mettre les États-Unis dehors.
Il y a des manifestations, de Nigériens tous les jours devant la base américaine.
Voilà. Et il y a des entraîneurs, des militaires russes qui sont déjà sur le terrain.
Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça qui va accélérer la négociation.
D'accord.
Mais c'était pour dire la façon dont les États-Unis
envisagent
le dialogue.
C'est eux qui décident. S'ils vont négocier ou pas. Oui, c'est eux qui décident tout, bien sûr.
Bon, donc effectivement...
On a les mêmes exemples ailleurs.
Oui, tout à fait. Non, mais tu as raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire, heureusement, les Nigériens, ils ont compris. Hein. Le gouvernement a été correct, il a demandé donc à ouvrir des négociations. Il a eu la réponse que je viens de détailler sous vos yeux. Et puis maintenant, il sait à quoi il a affaire. Hein. Puisqu'on lui dit, de toute façon, in fine, c'est les militaires qui décideront. Donc, on peut se réunir 50 fois, hein, c'est les militaires qui décideront. Et on sait très bien qu'a priori, la position des militaires, c'est de ne pas s'en aller, hein, sauf quand on est battu. Ça arrive aussi à l'armée des États-Unis. Bon. Voilà. C'était deux petits sujets.
Il y a beaucoup de soldats américains.
Un millier quand même. Ah oui, non, il y a du monde. Et il y a une petite unité aussi qui est à l'aéroport de Niamey même. Donc il y a deux bases, mais Agadez, c'est plus gros. Voilà. Donc c'était bien de rappeler ça. Ensuite, pour parler des gens qui il ne faut pas avoir confiance, qui vont, qui viennent dans des eaux, un coup c'est les uns, un coup c'est les autres.
Ils doivent tester, moi j'ai l'impression,
Voilà, tu vas voir. Alors je vais parler d'un autre qu'on aime bien qui s'appelle Erdogan. Alors, qu'est-ce qui arrive à Erdogan ? D'une part, bon, il a perdu, enfin pas lui en tant que tel, son parti a perdu les élections municipales, en particulier dans les plus grandes villes de Turquie. Donc je commence par Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, enfin vraiment, il a perdu
beaucoup, des grosses
villes. Bon. Ouais. Donc effectivement, il est en difficulté politique, tout en restant président et en ayant un gouvernement à sa botte. Bon. Mais il devait se rendre aux États-Unis pour un entretien en tête-à-tête avec Biden. Or, cet entretien vient d'être annulé. Ah, Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il était tout content parce qu'effectivement, il dit, moi, je suis dans l'OTAN, j'ai une grosse armée, etc. J'ai un pays puissant, etc. Bon, alors l'autre ne veut pas le recevoir. Alors, le prétexte trouvé, c'est de dire, ah oui, mais monsieur Erdogan, qui vous avez reçu récemment ? Monsieur Ismaël Haniyeh. Ah, donc, je cite M. Ismaël Haniyeh, c'est le responsable politique du Hamas, dont les enfants et les petits-enfants d'être assassinés à Gaza en masse. Enfin, je veux dire, presque toute la famille y est passée. Bon. Alors, qu'est-ce que faisait M. Erdogan ? Alors, je ne sais pas s'il avait reçu avant le meurtre des enfants d'Haniyeh, mais enfin, toujours est-il, il essayait de faire croire, comme toujours, qu'il est pour les Palestiniens, tout en ne faisant rien de concret et en continuant à envoyer du marchandise, des armes, etc. à Israël. Bon. Ça, c'est du Erdogan tout pur. On le connaît, il fait toujours comme ça sur tous les sujets. Bon. Et donc là, effectivement, les États-Unis, ah, pas possible, parce que pour nous, le Hamas, c'est des terroristes, c'est des gens qu'on n'aime pas. Et puis, c'est pas maintenant avec... on a Netanyahou sur le dos, on ne sait pas quoi faire. Hein, c'est pas maintenant qu'on va passer l'éponge sur ces questions-là. Donc, M. Erdogan a été refusé. Il ne rencontrera pas M. Biden. Ça lui apprendra. Mais ça lui apprendra à toujours danser d'un côté, de l'autre, à être ami avec les uns, avec les autres. Bon, il faut être clair et pas ambigu. Parce qu'on peut très bien être d'accord... recevoir un dirigeant du Hamas, mais il ne faut pas lui dire qu'on le comprend, et en même temps envoyer des armes aux gens qui tuent les militants du Hamas. Il y a une contradiction.
En plus de ça, il y a des grandes bases américaines qui sont en Turquie.
Bien sûr.
Et même avec armes nucléaires.
Tout à fait. Oui, dans la région, donc la plus proche d'ailleurs de la frontière syrienne, hein, vers Diyarbakir, par là. Bon. Donc voilà, M. Erdogan pris à son propre piège à force de danser dans tous les sens.
Ouais,
voilà. On n'est pas amis avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a... Je reviens toujours sur cette phrase qu'on prête à De Gaulle qui dit « un État n'a que des intérêts ». Oui, un État n'a que des intérêts. Le chef de l'État défend les intérêts de l'État qu'il dirige, certes. Mais un personnage, un dirigeant politique, un chef d'État qui ment à tout le monde, qui dit bonjour à tout le monde, qui fait des risettes à n'importe qui, à n'importe quand, il n'a pas la confiance des autres. Alors, une chose est de défendre les intérêts, c'est le métier d'un gouvernement et d'un chef d'État. Autre chose, c'est de mentir à tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, plus personne vous croit à un moment donné.
Monsieur, à notre niveau, déjà, on ne lui croit
pas. Mais exactement. Hein. Donc là, il est allé au bout un peu de son personnage, à force d'être pour les uns, contre les autres, pour les uns, etc. Là, il est un peu au bout, il est un peu coincé. Ça va l'obliger peut-être à réfléchir à son avenir politique et à son positionnement, en étant plus clair. Et en n'essayant pas de tromper tout le monde tout le temps. Donc, c'est la terre.
Est-ce que tu es au courant qu'il a reçu le Premier ministre irakien ?
Ah non, dis-nous.
L'Irak a reçu le Premier ministre...
Turc, qui est pas Erdogan.
Ouais, Erdogan. Il a été lui-même en Irak pour négocier les frontières et l'eau.
Alors, à l'eau, effectivement. Alors, problème, si, c'est intéressant, puisque la question de l'eau dans cette région-là du monde, elle est centrale, puisque vous avez, depuis vos études anciennes, vous savez
le Tigre et l'Euphrate.
La Mésopotamie, c'est le pays qui est entre deux fleuves, les deux fleuves qu'on connaît, le Tigre et l'Euphrate, qui, tous les deux, prennent leur source en Turquie.
C'est ça.
Bon. Alors, l'Euphrate coule à travers la Syrie et le Tigre coule le long de la frontière syro-irakienne. Ouais. Et ils se retrouvent après, donc au niveau de Bagdad, et ils redescendent jusqu'à la mer, jusqu'au golfe Persique, dans ce qu'on appelle... Et ils fusionnent tout à fait à la fin, sur les 100 derniers kilomètres, ils se retrouvent, ça s'appelle le Chotel Arabe. C'est un endroit merveilleux, extraordinaire.
Ouais, hein. Mais vous avez été, hein.
Oui, je suis allé. et donc, voilà. Et donc, effectivement, celui qui tient le robinet, on en a parlé à propos du Nil et du Bahreïn, en Éthiopie, celui qui est à la source peut pourrir la vie des autres, va les empêcher de boire, et donc ça c'est mortel, les empêcher de faire l'électricité, etc. Donc il importe que Erdogan et que la Turquie soient correctes vis-à-vis des gens qui sont sur le parcours de ces deux fleuves, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak. L'Irak c'est surtout pour le Tigre.
C'est ça.
Et sans ces deux fleuves, l'Irak est un désert, il faut le savoir, hein. Et quand on a des deux fleuves comme ça, on a des jardins. C'est comme la vallée du Nil, c'est exactement le même principe. Et ça remonte à il y a 3000 ans, tout ça. Hein. On a su, la Mésopotamie, c'était une terre à blé extraordinaire du temps de la grande antiquité et tout. C'est pour ça qu'il y a eu toute une série de civilisations qui ont fleuri, hein. Babylone, Akkad, Sumer, etc. Parce qu'il y avait de l'eau et de la terre agricole.
La Syrie y compris.
Et la Syrie, même chose avec l'Euphrate, pareil.
Parce qu'il coupe le robinet quand il le veut, M. Erdogan.
Donc là aussi, M. Erdogan a intérêt à être correct et régulier, c'est-à-dire dire je m'engage, je le fais. Je ne menace pas mes voisins tous les deux matins parce que je me suis levé du mauvais pied de leur couper l'eau. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas pour le Nil, ça ne se fera pas pour le Nil, ça se fait nulle part ailleurs. Ça ne peut pas se faire pour le Congo parce que le Congo a la chance d'avoir pratiquement tout le Congo, la République, je veux dire la RDC, a la chance d'avoir tout le parcours du fleuve Congo, qui est un des plus grands du monde, sur son territoire. Donc elle n'a pas ce souci-là. Mais d'autres l'ont. Donc cette question de la géopolitique de l'eau est une question centrale, de plus en plus centrale, puisqu'on sait que l'humanité commence, pas globalement à manquer d'eau, mais qu'il faut faire attention quand on est 8 milliards et qu'on sera probablement 10 dans 20 ans, il faut faire attention à la consommation, ne pas gaspiller l'eau douce qui, à défaut d'être toujours potable, peut être rendue potable, alors que l'eau de mer, je dis un mot là-dessus, on sait transformer l'eau de mer en eau potable, mais ça coûte un argent fou.
Ouais. Voilà. Et donc, l'Arabie Saoudite, exemple.
Voilà, quand on a le pétrole gratuit, oui, voilà. Ouais. Voilà. Ça, c'était une petite introduction. Et je vais arriver à une petite nouvelle qui concerne la Palestine. Vous savez que M. Macron et son ministre des Affaires étrangères avaient envoyé Mme Catherine Colonna, donc vous situez, ex-ministre des Affaires étrangères, dans le cabinet d'Elisabeth Borne, s'occuper de faire un diagnostic sur l'UNRWA, cette fameuse structure de l'ONU chargée de s'occuper des réfugiés palestiniens dans les pays autour de la Palestine. Et Madame Colonna a remis son rapport. Alors c'est assez intéressant parce qu'elle dit beaucoup de choses très importantes dans son rapport, qui est donc destiné au secrétaire général de l'ONU, qui a mandaté donc ce groupe pour faire un rapport. Elle dit, je cite, « L'UNRWA est indispensable ». Vous entendez bien, l'UNRWA est indispensable. Bon. Ça veut dire que, bien que, et on l'a dit au cours d'une autre émission à ce micro, bien que l'UNRWA, on aurait souhaité qu'elle arrête son travail beaucoup avant parce que la question de l'État palestinien aurait été réglée, ce qui aurait réglé la question de là. Bon, tant que la question de l'État palestinien n'est pas réglée, l'UNRWA est, je reprends les termes de Mme Gola, indispensable. Point. Voilà. Premier élément. Deuxième élément. Vous savez qu'Israël a accusé l'UNRWA d'héberger ou de nourrir en tant que salarié, qui aurait parmi ses 30 000 salariés, c'est le nombre à peu près qu'ils reconnaissent, des gens du Hamas. Et ce que Mme Colonna dit dans son rapport, c'est très très intéressant. Elle dit l'UNRWA, chaque fois qu'elle embauche un salarié, elle envoie la liste à Israël. Elle envoie la liste à Israël.
C'est sûr, il y a tout qui passe par voilà. Israël.
Et elle observe, mais Israël n'a jamais mis de veto sur aucun nom. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que tout d'un coup, vous dire ils sont méchants, ils sont passés chez le Hamas et vous n'avez pas vu. Mais dites, ce n'est pas à moi qu'il faut le reprocher. L'UNRWA n'y est pour rien. Hein? Ça, c'est très très important comme remarque, hein, parce qu'elle souligne, ça je ne savais pas moi effectivement, je ne savais pas que Israël exige de tout savoir. Bon, on lui dit, ben voilà la liste des embauchés. Alors, le monsieur qui fait ça, c'est le directeur de l'UNRWA, qui est un Suisse, qui est un diplomate suisse, monsieur Philippe Lazzarini. Ouais. Il a eu une consigne, on lui a dit, tu envoies la liste des embauchés à Israël, et si au bout d'un certain délai qui doit être prévu, ils n'ont pas répondu, tu embauches.
Voilà, hein.
Et voilà que tout d'un coup, bien après, beaucoup plus tard, il dit, ah, lui, tu embauches, tu embauches. Mais monsieur, bon, je dis pour rien, c'est vous qui êtes nul, hein, c'est vous qui n'avez pas fait votre travail. C'est trop facile de dire que lui, il est au Hamas. Vous ne le saviez pas? Ah, il paraît important, on a dit que vous aviez de bonnes relations avec le Hamas. Vous ne les connaissiez pas? Bon, alors voilà, ça coupe court à des débats oiseux qui étaient tout à fait inutiles. Merci, Madame Colonna, d'avoir fait ça. Je suis satisfait qu'elle le fasse, parce qu'elle a été quand même porte-parole un peu de la France gaulliste. Je rappelle qu'elle était porte-parole du gouvernement Chirac à un moment donné. Donc elle a gardé quand même un début de compréhension du monde arabe qu'il n'y a évidemment pas dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Bon. Et donc je mets ça sur ce compte. Et c'est d'ailleurs pas tout à fait par hasard qu'il l'avait choisi lui pour y aller, parce qu'il se doutait que ça risquait de mettre un certain nombre de choses au clair. Bon, c'est éclairci. Je le rappelle, l'UNRWA est indispensable et les salariés de l'UNRWA sont propres, et s'ils ne sont pas propres, c'est que l'Israël a laissé faire.
Avec un, bon.
Voilà, bien sûr, ils avaient qu'à le faire.
Excuse-moi, qui c'est qui avait demandé ce rapport là de Catherine?
C'est l'ONU, c'est le secrétaire général de l'ONU, puisqu'il y avait cette accusation d'Israël, on s'en souvient, qui disait oui, mais dans l'UNRWA, il y avait, alors ils avaient donné 12 noms, je crois, qui faisaient partie des attaquants du 7 octobre, qui sont allés tuer des Israéliens. Et donc, ils ont. Alors, vous dites ça, ça c'est le niveau officiel, je dis il y a 12 personnes. Bon. Après, finalement, le directeur de l'UNRWA a dit « il y en a trois dont, pour lesquels je peux avoir des doutes ». Il les a licenciés, ce qui, à mon avis, était excessif. Il aurait dû les mettre à pied en attendant une enquête. Bon, il les a licenciés. Et puis tous les autres, on n'en parle plus. Mais ouais, après, quand on démarre avec 12 noms et qu'on est au niveau de relations diplomatiques, on envoie une liste, mais ça fait vite le tour du monde en disant « l'UNRWA est truffée, est infestée par le Hamas ». C'est ça le but de la manœuvre. Ça, c'est de la propagande élémentaire de base. Hein. Tout, et à la limite, allons plus loin, et l'équipe à Netanyahou, ils seraient capables de dire « tous les salariés de l'UNRWA sont au Hamas ». Et puis voilà, l'affaire est faite.
De toute façon, elle a raison, puisqu'ils sont tout le temps informés.
Bien sûr.
Aussi bien...
Mais bien sûr.
Oui.
Mais bien sûr.
Tout mais ce oui, qui mais se tout passe pas, dans oui, la Palestine, mais bien sûr, ils sont informés. Ils savent, donc.
Ouais, puis toutes les marchandises, toute l'aide humanitaire, ouais. Ils la contrôlent. Bon, ouais, ça,
même
donc,
l'argent.
Mais
tout
bien sûr. Bien sûr. Voilà, ça c'était des petites nouvelles. Et on en arrive au moment où on va faire une pause guerrière avec une chanson qu'on passera après que j'ai fait cette introduction, parce qu'on est en avril 2024 et on fête ces jours-ci le 50e anniversaire de la Révolution portugaise, qui est un moment important de l'histoire du monde et de l'Europe en particulier. Donc, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe en avril 1974 au Portugal? Il se passe un événement qui a des caractéristiques assez extraordinaires, c'est-à-dire qu'on a une armée qui fait une révolution qui donc fait tomber un régime qui était une dictature, sans tirer un coup de fusil, sans faire un blessé, sans faire un mort. Simplement en montrant qu'elle est là, qu'elle a des chars d'assaut, elle a tout ce qu'il faut, elle a fait la guerre, etc. Mais qu'elle veut surtout qu'il n'y ait pas la guerre entre Portugais, elle veut que cesse la dictature et que le peuple portugais respire. Parce que ça fait quand même, depuis 1922 ou 1923, qu'il est sous dictature. Alors, Salazar, le dictateur, est mort en 1970, je crois, mais il a eu un successeur qui s'appelait Marcelo Caetano, qui en 1974 est encore là. Donc, on a quand même pratiquement 80 ans de dictature. Une dictature très très sévère, avec une police politique très très sévère et tout. Et surtout, on a un pays colonial. On a un pays colonial qui a des colonies qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes que lui. Le Portugal, c'est tout petit. Mais si vous additionnez la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, l'Angola et le Mozambique, vous avez un territoire gigantesque. Bon. Et la dictature, pas plus Salazar que Caetano, n'ont voulu abandonner ce territoire, ces territoires, dont provenait une partie de leur richesse. Et donc, effectivement, ce qui se passe, c'est que l'armée portugaise ne sert pratiquement à rien sur le territoire du Portugal, puisque le Portugal a été très, très tôt intégré dans l'OTAN, bien avant l'Espagne, d'ailleurs, sous Franco. Et donc, l'armée portugaise ne sert qu'à faire la guerre coloniale. Et donc, tous les jeunes hommes, officiers, sous-officiers et soldats, qui sont passés sous les drapeaux pour des services militaires qui étaient longs, au moins 2 ans, voire plus, sont tous allés quelque part tuer du rebelle africain, je simplifie, tuer donc les gens des mouvements de libération de ces différentes colonies. Et à un moment donné, tous ces jeunes gens en ont assez d'aller tuer des Africains pour pas grand-chose, dans un pays où ils étouffent par ailleurs, et vous dites, si on sert qu'à ça, si défendre notre pays, ça consiste à aller tuer des Angolais, des Mozambicains, nous on n'en peut plus. Et donc ils décident de faire tomber le régime. Et ils montent un complot, c'est un vrai complot, bien organisé, par des militaires et tout, pour dire, bon, tel jour, à telle heure, on se rassemble, on envoie nos chars d'assaut devant les casernes et devant les ministères, devant la présidence de la République, et puis on dit, maintenant, c'est fini, partez. C'est tout. Et c'est ce qui va marcher. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une révolution tranquille, mais qui s'explique par le fait que c'est tranquille parce qu'il y a des militaires qui la font avec des chars d'assaut. Alors avec des chars d'assaut, quand vous venez devant un ministère ou devant un commissariat de police, vous dites maintenant sortez et allez-vous-en, la négociation est très très vite finie. C'est ce qui se passe donc le 24 avril 1974 au Portugal. Et à partir de ce moment-là, c'est une explosion de joie parce que ce qu'ont ressenti ces militaires dans les colonies portugaises, la population l'a ressenti. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas de liberté syndicale, pas de liberté d'expression, une police politique extrêmement sévère et tout ça, elle le vivait, mais elle ne pouvait pas faire quelque chose. La seule activité politique possible était clandestine. C'était le cas du Parti communiste portugais qui a survécu dans la clandestinité, mais les limites de l'action étaient petites. Et donc, il y a un grand moment d'euphorie nationale et populaire qui s'explique aussi. Alors, le choix de la date est quand même assez intéressant parce que qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'à Lisbonne en 1974 au printemps ? Et bien, ce qu'il faut situer, et ça, c'est très, très important parce que je pense que le choix de la date n'a pas été fait tout à fait par hasard. C'est que l'armée des États-Unis a quitté le Vietnam à la fin de 1973. À la période, quand on arrive en avril, au moment de la révolution portugaise, il ne reste plus en face à face que l'armée du Viet Minh, donc de Vietnam Nord, et l'armée du Vietnam Sud qui va perdre et partir en petits morceaux. Et puis, dans la même période, il y a un certain Richard Nixon, qui, vous le savez, a été victime du Watergate et qui vient de démissionner après avoir menti à la justice de son pays, etc., pour avoir fait écouter donc, le siège des démocrates et tout. Et en fait, on est dans une période où le régime des États-Unis est faible. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont perdu la guerre du Vietnam, c'est concret, leur allié sud-vietnamien ne tient pas le choc, et la gouvernance des États-Unis est douteuse, puisque Nixon démissionne et que son vice-président élu, qui s'appelait Spiro Agnew, a démissionné aussi pour d'autres raisons, pour des faits de corruption. Alors, vous voyez, une équipe des États-Unis qui part, parce que j'ai menti au peuple, l'autre est corrompu et tout. Il arrive à la tête du pays un certain Gerald Ford, qu'on nomme vice-président au moment où Spiro Agnew donne sa démission, qui s'avérera ne pas être une grande lumière. Et donc, effectivement, les États-Unis sont dans un moment d'extrême faiblesse. Défaite militaire, corruption politique, désapprobation de l'opinion, ça fait beaucoup. Et donc, à mon avis, les militaires portugais ont bien visé. Ils ont bien visé parce qu'ils étaient là. On sera tranquille parce que les États-Unis sont paralysés. Pourtant, ils vont quand même essayer de ne pas laisser les roulements se dérouler. Et ils vont trouver deux alliés. J'insiste là-dessus parce que ça nous concerne très directement. Devant cette faiblesse que je souligne donc de la gouvernance, du gouvernement des États-Unis, il y a deux dirigeants européens qui vont dire il faut qu'on se mette dans le combat parce que cette révolution, elle est quand même populaire. À tendance socialiste, alors avec des mélanges entre des gens qui seraient plus communistes, d'autres plus autogestionnaires, d'autres plus... Enfin, il y a toute une série de courants qui étouffaient dans le Portugal de la dictature, qui s'expriment. Mais on a un courant de gauche qui est très très majoritaire, et puis une population qui est très très contente de sortir enfin de la dictature. Et donc ce que vont faire M. Valéry Giscard d'Estaing, qui est élu un mois après, et M. Helmut Schmidt, qui est donc le chancelier allemand, c'est dire, bon, il faut qu'on s'occupe très sérieusement de cette affaire, parce qu'il ne faut pas que ce gouvernement parte vers la gauche. Danger. Ils sont d'autant plus inquiets que parmi les généraux qui ont participé au coup d'État, il y en a un qui s'avère avoir de l'ascendant dans l'équipe des généraux qui dirigent les affaires pendant cette période-là. On est dans une période temporaire où il n'y a pas eu d'élection encore. Il y en a un qui s'appelle M. Vasco Gonçalves, qui est proche du Parti communiste, sinon membre, et qui dit, écoutez bien, et ça c'est mortel comme affirmation, moi je suis pour la sortie du Portugal de l'OTAN. Alors la panique totale, donc ça explique que Giscard, Schmitt et puis l'ambassadeur des États-Unis à Lisbonne disent il faut tout faire pour arrêter ça, il faut faire tomber le système. Et donc ils vont prendre à peu près, ça va prendre deux ans pendant lesquels les Portugais vont voter, se doter d'une constitution extrêmement progressiste, certainement la plus progressiste des constitutions d'Europe, mais où petit à petit, le travail de Giscard, de Schmitt, des États-Unis, une fois que Ford est au pouvoir, de la Grande-Bretagne aussi, qui met là-dedans, va permettre de mettre au pouvoir un autre général, qui s'appelle le général Eanes, qui lui dit « on est dans l'OTAN, on y reste ». Donc le peuple a fait sa révolution, il s'est ébroué pendant 2 ans, il est content, on est libre, on parle, on a des élections, etc. Mais la fête est finie et surtout, j'insiste là-dessus parce que ça me paraît central dans la question portugaise, le Portugal ne quittera pas l'OTAN. Ça c'est un péché dont il ne se serait pas remis. Voilà, ce que je voulais, et j'ajoute une dernière chose parce que ça nous concerne aussi en tant qu'Européens, si j'ose dire. Dans tous les jeunes gens, jeunes femmes, moins jeunes d'ailleurs, qui sont contents et qui font la fête après la chute de la dictature, il y a un jeune homme qui s'appelle Juan Manuel Barroso, dont vous avez peut-être entendu parler, qui se trouve être le porte-parole étudiant d'un mouvement maoïste. Alors, je mets d'énormes guillemets parce que des mouvements maoïstes, il y en avait de toutes les couleurs. Voilà. Mais il y en avait de toutes les couleurs. Et lui, donc, il était membre, il était porte-parole à l'université de Lisbonne du mouvement pour la reconstruction du parti du prolétariat qui s'affichait comme maoïste et qui était donc anticommuniste, donc anti-Gonçalves, il était contre la révolution pratiquement, et il s'est avéré que ce personnage, alors ça n'a pas fait beaucoup d'effet, hein, le MRPP Barroso, mais Barroso, lui, a bien commencé sa carrière, puisqu'après avoir été le leader étudiant, une fois que le Portugal est repris en main par l'Occident, il va devenir Premier ministre, un peu plus tard, il va devenir président de la Commission européenne, et il va finir comme dirigeant de la Banque internationale Goldman Sachs. C'est pas beau pour un maoïste, ça, hein? Mais c'est un maoïste pro-américain. C'était là-dessus que je voulais insister.
Mais juste une chose, à l'époque, en 1974, la France n'était pas dans l'OTAN. Et pourtant...
Si. Alors, attends. Ah. Non, ce qu'il faut préciser. D'accord. Alors, ce que fait De Gaulle en 1967, c'est qu'il quitte le commandement intégré de l'OTAN.
Voilà.
Mais il ne sort pas, il n'est jamais sorti. Il a dit, moi je reste fidèle à mes amitiés. C'est à lui que je pensais quand je parlais de mes intérêts et la parole donnée. Je suis dans le traité de l'Atlantique Nord, la France y est. Si jamais la Grande-Bretagne ou le Canada étaient attaqués, je serais parti de leurs alliés, de leurs amis. Mais je veux mon autonomie de défense, je veux ma bombe atomique, je veux ma force de frappe, donc je ne fais pas partie. Il n'y a pas ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas un officier général des États-Unis qui me dira ce que je fais avec mon armée. J'irai, si je suis d'accord, sur un objectif qu'on aura fixé en commun. Hein? Donc c'est ça, le commandement intégré, c'est ça. Mais on y rentrait, dès Sarkozy, on y rentre.
C'est ça.
Voilà. Ça a été accentué après, mais enfin, dès Sarkozy, on y rentre. Donc le rapport de la France et de l'OTAN, il est clair. La France respecte, De Gaulle respecte le traité de l'Atlantique Nord, mais elle ne veut pas que son armée soit commandée par un général d'un autre pays. C'est aussi simple que ça. Mais ça, déjà, on a de la peine à le faire comprendre aujourd'hui, et c'est pourtant tout à fait clair. Et donc, on va passer la fameuse chanson qui a servi de déclencheur de la révolution du 24 avril 1974, c'est-à-dire que les unités militaires qui allaient donc cerner les unités de la gendarmerie, se mettre devant les ministères et tout, étaient prêtes et elles attendaient sur une des radios d'État d'écouter une chanson pour dire « c'est l'heure, on y va, on sort de la caserne » et c'était en pleine nuit. Et voilà la chanson qu'ils ont entendue et qui a mis pas le feu aux poudres, puisqu'il y a eu zéro feu à zéro poudre, hein, mais qui a démarré la révolution, qui s'appelle « Grandola Villa Morena ».
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena.
Voilà, on écoute pas en entier, mais vous avez entendu au moins ça. Terra de fraternidad, terre de fraternité. C'est un chant de paysan qui se serre les coudes pour aller au travail. Donc c'est très, très significatif de cette révolution portugaise, qui était une révolution populaire, mais que les militaires ont fait éclore. C'est un rôle tout à fait exceptionnel dans l'histoire. Et j'en viens à une actualité plus lourde concernant les votes du Congrès des États-Unis pour la guerre. Puisque là, on a affaire à une affaire très très sérieuse, puisque donc la Chambre des représentants, je précise, la petite Chambre, donc, a voté un budget de guerre qui est triple. Alors, je m'arrête là-dessus parce qu'il y a eu tellement de chiffres jetés sur les ondes et tout qu'il faut bien clarifier les choses. Alors, il y a eu trois votes, trois voix, trois lois qui ont été votées, touchant l'une à l'Ukraine, la deuxième à Israël, la troisième à l'Asie, donc à Taïwan, mais pas que Taïwan. Et on a mis tout ça dans un paquet, mais en fait, il y a trois votes différents. Le total, alors, mais il s'agit de mettre de l'argent dans la mécanique guerrière, que les choses soient bien claires. Alors, il s'agit donc au total de 95 milliards de dollars. C'est en gros déjà le tiers du budget de la France, hein, pour vous donner une idée des choses. Alors c'est peu par rapport au budget militaire des États-Unis qui est de l'ordre maintenant de entre 800 et 900 milliards de dollars. Donc on est à peine à un petit 10%. Enfin, il faut quand même les sortir parce que le reste a déjà été prévu. Alors comment ça se vend-il ? C'est là-dessus que je voulais m'arrêter pour bien qu'on comprenne. Alors dans le premier paquet, il y a un paquet ukrainien. Dans ce paquet ukrainien qui est de 60 milliards, donc c'est la grosse partie des 95 milliards, alors c'est là que ça devient étonnant, ben c'est tellement révélateur. Il y en a 23 qui vont rester à Washington. Ah bon ? Mais qu'est-ce que... Alors on donne de l'argent à l'Ukraine, mais il reste à Washington. Oui, parce qu'en fait, vous savez, en fait, nous, enfin, je parle comme si j'étais un marchand de canons. Oui, nous, on a envoyé tout ce qu'on avait en stock en Ukraine, on n'a plus rien. Et donc, nos stocks sont vides. Et si demain on nous en demande plus, ben on n'a pas. Donc il faut qu'on lance la production de nouveaux canons, de nouveaux missiles, etc. Et donc il y a 23 milliards qui partent pas, qu'on reste sur place et qui restent dans les poches classiques des marchands de canons. Ouf, ça c'est pas perdu. C'est pas perdu pour eux au moins. Eux, ils sont contents parce qu'au fond, ça leur avance à ça. Ils ont touché 23 milliards qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas prévus initialement. Ensuite, alors il y en a 8 qui vont directement, non pas dans du matériel, mais c'est dans la caisse noire de M. Zelensky. Il y a 8 milliards pour lui, pour qu'il s'occupe, pour qu'il distribue plus d'argent. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il prendra, ce qu'il se perdra en route, on ne sait pas. Hein, mais c'est directement au trésor du gouvernement ukrainien. Et puis, on ajoute à ça, alors là, c'est le sommet, on ajoute à ça le vol des avoirs russes en Occident.
Eh ben oui, alors, j'en ai entendu parler, oui.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous avez des économies, petites économies, parce que c'est 8 milliards, c'est pour un pays comme la Russie, c'est pas beaucoup, hein, mais vous avez vous les placez, vos économies, pour pas que l'argent dorme. Et donc, vous les placez à un endroit où vous allez avoir un rendement de 3, 4, 5%, etc. Et très classiquement, ce qui se fait pour les États qui ont de l'argent à placer comme ça, des petits, c'est du court terme, ce n'est pas des fonds qu'on investit. C'est comme la caisse d'épargne, mais seulement c'est des sommes différentes de celles qu'on peut placer, nous, citoyens français, à la caisse d'épargne. Donc c'est des milliards comme ça. Et donc vous les placez sur des comptes en dollars dans des banques américaines. Ou même vous achetez des bons du trésor du gouvernement américain. Ça vous assure un rendement qui est fixé dans le contrat, c'est 3, 4, 5% selon les périodes. Et tout. Donc vous avez de l'argent qui ne dort pas, qui rapporte un petit peu, et puis le jour où vous en avez besoin, vous le rapatriez. Bon. Ce que veut faire le Congrès des États-Unis, c'est dire, c'est aux États-Unis, on le garde. On le garde et on va le donner aux Ukrainiens. Bon. Alors c'est un calcul de fou, parce que en fait, si la plupart des gens, les États ou les grosses entreprises qui placent comme ça de l'argent en dollars dans une banque américaine, vont dire « Ah mais s'ils font comme ça, moi je mets mon argent là, mais qui sait si demain matin ils vont pas me le prendre hein ?» Et donc en fait, les États-Unis se tirent une balle dans le pied monstrueuse, ça montre qu'ils sont un peu inquiets quand même par ailleurs, c'est-à-dire d'être non crédibles du point de vue du système financier international. Les gens placent de l'argent chez vous et vous gardez l'argent. Vous imaginez la situation. Bon, alors je pense qu'ils n'ont pas bien vu. Je me demande même, parce que donc la loi là, est passée à la Chambre des représentants, elle doit passer, je crois, aujourd'hui où je vous parle, au Congrès, au Sénat. Il n'est pas évident que le raisonnement que je tiens devant vous ne soit pas aussi dans la tête d'un certain nombre de sénateurs qui disent « Mais attendez, c'est une folie, parce qu'on devient un pays, des banquiers voyous qui volent l'argent qui est déposé chez eux. Hein. » Ce n'est pas très très bon pour la réputation des banquiers des États-Unis ou pour le Trésor. Donc peut-être ils vont avoir un doute, je ne sais pas. On saura ce soir s'ils ont voté ou pas pour ça. Mais de toute façon, s'ils sont sur cette pente, c'est une pente très dangereuse. Hein. Alors, vous imaginez. Alors, Madame von der Leyen a dit qu'elle était tout à fait d'accord avec ça, parce que là, bon, elle répète, c'est pas grave.
Macron. Et voilà. Et Macron. Mais c'est normal, c'est déjà une voleuse, Madame von der Leyen.
Voilà, exactement. Oui, exactement. Mais on va voir ce qui va se passer. Donc voilà le paquet pour l'Ukraine. Donc les 60, donc, ce qui reste, etc. Ensuite, le deuxième paquet, c'est pour Israël. Alors Israël a droit à 20... Alors si, dernière chose quand même sur le paquet ukrainien, il faut savoir que dans l'opinion des États-Unis, même apparemment dans la grande masse de l'information, on a mis en avant l'Ukraine pour moins parler d'Israël. Ça faisait partie des choses. C'est plus facilement vendable, en particulier au niveau de l'opinion américaine, de dire on défend l'Ukraine plutôt que de défendre Israël, surtout pour l'électorat, une partie de l'électorat démocrate de Biden. Donc il aurait dit oh, « je donne tout l'argent à Israël », ça serait électoralement pas très payant. Donc ils ont mis en avant l'Ukraine, avec beaucoup plus d'argent, pour faire un peu gommer la suite. Hein. Ça s'explique très très bien comme ça, c'est un calcul tactique qui fait partie de la campagne électorale. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est comment ça se fait que la Chambre des représentants, où les républicains ont une majorité petite, hein, ils ont 2 sièges d'avance, je crois, sur les démocrates, ont voté ça, puisque c'est un projet Biden qui est destiné à continuer la guerre en Ukraine. Et comment ça se fait qu'ils ont changé d'avis? Alors pas tous, parce qu'il y a quand même 50 représentants conservateurs qui ont voté contre les 60 milliards. Qui a fait bouger la bascule, c'est Donald Trump lui-même. Donald Trump lui-même est allé négocier avec le président de la Chambre des représentants pour dire « les républicains vous appuieront ». Donc on est d'accord pour donner tout cet argent à l'Ukraine. Hein, mais il a trouvé... Alors, le calcul n'est pas très très brillant. Je ne sais pas si ça trompe beaucoup les électeurs aux États-Unis. En disant, oui, mais il faut dire qu'on ne leur donne pas cet argent, on leur prête. Ce qui veut dire, oui, je fais une largesse, ils en ont besoin, ils ont des difficultés et tout, mais c'est juste un prêt, il faudra qu'ils nous remboursent. Oui, sur l'eau. Ben, bon, on verra bien. Alors, tout le monde sait que l'Ukraine est dans l'incapacité de rembourser quoi que ce soit. L'argent qu'on va leur envoyer va servir aux dépenses quotidiennes dès le lendemain du jour où il arrive, etc. Bon. Mais Trump s'est fait comme ça une illusion en disant « Oui, mais j'accepte, mais en fait, je pose des conditions. Hein, on ne me vole pas mon argent, je me fais rembourser. » Il faut savoir que, par ailleurs, il a été dit que si jamais il décidait de ne pas rembourser, eh ben, on ne demanderait rien. Ça arrive aussi, vous pouvez prêter de l'argent à quelqu'un, puis vous dites finalement, tu ne le rembourses pas, bon, on n'est pas grave, on n'est pas fâché, l'emprunteur est content. Hein. Bon. Alors voilà comment Trump s'est positionné, et ça a suscité la réaction, je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus, d'une parlementaire, donc d'une représentante au Congrès, à la Chambre des représentants, qui s'appelle, j'ai quelque part, Madame Nathalie, ouais, j'ai ça quelque part. J'ai ça quelque part. Elle s'appelle... Excusez-moi, je cherche un papier parce que ce n'est pas une de mes amies. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Elle a un peu mis les pieds dans le plat, j'allais dire. Elle a bien fait d'une certaine façon. Elle s'appelle très exactement... Bon, je ne trouve pas. C'est pas grave. Donc, elle a mis les pieds dans le plat d'une façon assez... précise en disant c'est bien joli tout cet argent qui part, mais c'est quand même presque 100 milliards de plus que ce qui était prévu au budget, ça fait beaucoup. Et elle a insisté, ce qu'on aurait fait en étant un peu raisonnable, en disant mais tout ça c'est de l'argent que vous avez pris dans la poche des citoyens des États-Unis, on a payé des impôts, on a travaillé, et c'est pour faire ça. Mais je vous signale que les conditions de vie de la masse de la population des États-Unis ne sont pas en train de s'arranger. Les loyers deviennent de plus en plus chers, les hypothèques deviennent de plus en plus chères, les prix à la consommation deviennent de plus en plus chers. Et donc, on comprend assez mal qu'au moment où la vie, pour la majorité des familles de classe moyenne ou basse des États-Unis, s'aggrave, vous soyez en train de donner de l'argent à un pays dont on ne sait pas ce qu'il va en faire. Hein. Donc, il y a une erreur d'orientation. Alors, ce qui est un peu gênant dans ce personnage, voilà, j'ai retrouvé son nom, oui. C'est que cette dame, en même temps, a des positions... Alors, vous allez, c'était intéressant comme réflexion, parce que cette dame, donc, elle a des positions que je viens d'expliquer, en disant « c'est bien joli de jeter l'argent par les fenêtres pour un conflit ukrainien dont on sait qu'on ne sortira probablement pas vainqueur ». Ça, elle l'ajoute, mais pas qu'elle. Il y a beaucoup de gens qui le disent maintenant aux États-Unis. Et c'est l'idée majoritaire aux États-Unis, c'est que cette guerre ne sert à rien pour les États-Unis. 70% de la population des États-Unis est contre la guerre en Ukraine, il faut le savoir. Donc elle s'exprime là-dessus et elle dit les citoyens américains ont de la peine pour payer leurs factures, pour acheter leur essence, tout, la vie quotidienne. Et ça, vous auriez pu vous abstenir. Alors elle le fait au nom d'un raisonnement sur lequel je m'arrête, parce que ce type de problématique, c'est-à-dire dire vous prenez aux travailleurs, à la classe ouvrière, à la classe travailleuse du pays beaucoup d'argent pour fabriquer une guerre à l'extérieur qui n'intéresse que vous et les marchands de canons. Et elle dit, et c'est là que je m'arrête, elle dit autrement vous feriez mieux d'empêcher l'immigration. Alors vous voyez, moi j'insiste là-dessus parce que c'est des cas qui ne sont pas tout à fait étrangers, ça ne se passe pas qu'aux États-Unis, ce genre de questions. Dire l'important, la priorité pour elle, c'est elle qui s'exprime, c'est d'arrêter l'immigration. Hein, et elle s'appuie pour lancer cette campagne contre l'immigration sur les difficultés matérielles de la grande masse de la population des États-Unis. Vous voyez ce mécanisme ? Alors ce mécanisme, on le connaît, il a été utilisé en France, il va l'être encore abondamment pendant la campagne des européennes, il a été utilisé dans d'autres périodes électorales, c'est-à-dire dire on a des difficultés financières, la faute c'est les immigrés. Ouais. C'est pour ça que je voulais m'arrêter sur elle, parce que ce n'est pas propre aux États-Unis ce type de raisonnement. En même temps, elle a raison de dire on a des difficultés financières et il y en a assez de financer des guerres dans le monde entier. Et en même temps, dire que toute la faute vient des immigrés, c'est une erreur manifeste, puisque de toute façon, elle sait, et les démocrates sont accusés par les républicains dont elle fait partie, elle est élue républicaine, sont accusés d'avoir trop laissé rentrer d'immigrants. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, laisser beaucoup rentrer d'immigrants ? Mais ça veut dire que tout le sous-prolétariat aux États-Unis, tous ceux qui vont ramasser des fruits et des légumes en Californie, tous ceux qui vont aller travailler dans des usines mal entretenues, aux mauvaises conditions de travail et tout, sont des gens sous-payés, immigrés, sans statut, sans protection et tout. Il faut savoir que l'immigration comme ça profite toujours aux capitalistes.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est... Bon, ça, on le connaît, c'est le, la mécanique est parfaitement claire. C'est pour ça que je voulais insister. À la fois, elle s'oppose à Trump, parce qu'elle est républicaine comme lui, sur la question de... Il n'y a pas de raison de donner tant d'argent à l'Ukraine, alors qu'il a fait basculer la majorité de la Chambre des représentants. Mais elle avance son problème, qui est un faux problème, c'est-à-dire tout vient des immigrés. Bon, tout ne vient pas des immigrés, puisque la porte a été ouverte par Biden, ce que les républicains reprochent aux démocrates. Hein, et s'il l'a fait, c'est parce que c'est l'intérêt du patronat et du capitalisme. Le capitalisme veut toujours avoir une couche fragile qui va surexploiter par rapport aux autres couches qui se laissent moins faire. L'immigré, surtout le sans-papier, enfin, on connaît ça, c'est tous les jours ici, on connaît ça tellement bien en France et dans toute l'Europe, hein, l'immigré sans-papier, c'est de la chair pour les restaurants, pour le travail clandestin, pour les chantiers, voilà, partout. Hein. Bon, et donc, qui est le bénéficiaire ? Alors, le pauvre immigré, il va gagner 4 sous, il va envoyer la moitié de ses 4 sous à sa famille ici et là, hein, et en fait, celui qui a gagné, c'est qu'il emploie des travailleurs conditions de travail sous-payés. Il faut savoir, je donne un chiffre sur la France qui fait réfléchir, mais sur la France aujourd'hui, il y a en gros 17% de la population qui gagne le SMIC. 17% de la population, presque un travailleur sur 5. Bon, le SMIC, c'est obligatoire. Alors, vous allez dire, il y a des boîtes où on ne paye même pas le SMIC, on est carrément en faute. Mais on peut être en règle. L'avantage de payer le SMIC dans la législation française, c'est qu'aujourd'hui, un salarié au SMIC ne cotise pas à la sécurité sociale. Et donc, on perd les cotisations de sécurité sociale de 20% de la population française. Après, on dit, ah mon Dieu, la sécurité sociale est en difficulté. Ben voyons, vous enlevez 20% de la population qui ne cotise pas. Hein. C'est tellement facile. Vous voyez toute cette architecture qu'il faut bien comprendre. Bon, ça nous emmène loin du Congrès aux États-Unis. Et en même temps, ces problématiques sont à peu près toujours les mêmes dans l'Occident capitaliste, dans l'État où il est. Il me reste quelques minutes pour vous parler, donc on parlait guerre et budget, pour vous donner quelques indications, mais je pense que je développerai plus la semaine prochaine, sur les chiffres sortis par le CIPRI. Le CIPRI, vous savez, c'est un institut de recherche sur la guerre qui fonctionne en Suède, à Stockholm, et qui publie tous les ans un état des dépenses militaires mondiales qui est accepté dans le monde entier. Tout le monde considère que le travail est bien fait, donc il regarde toutes les statistiques, les votes de tous les parlements, etc., les ventes d'armes, etc. Alors, il donne un certain nombre d'indications très intéressantes, sur lesquelles je vais un petit peu m'arrêter. Il y a d'abord la liste des principaux dépensiers en matière militaire. Hein ? Alors, évidemment, le principal dépensier, alors on en a les 15 premiers, alors je vous les donne dans l'ordre. Le premier, c'est évidemment les États-Unis, mais très très loin devant, puisqu'ils sont presque à 40% de la dépense militaire mondiale. Ça, c'est le chiffre pour 2023. Le deuxième est la Chine. Et la Chine, c'est pas tout à fait 300 milliards de dollars, c'est en gros un tiers de la dépense des États-Unis pour, je rappelle, 4 fois plus d'habitants. Hein. Ensuite, il arrive la Russie, qui a été obligée de monter en puissance parce qu'elle est quand même en train de mener un conflit militaire et qu'elle engage du matériel et du personnel. Ensuite, il arrive l'Inde. Il arrive ensuite, alors l'Inde, c'est aussi un gros pays donc, qui a une armée à la proportion de sa population. Et il arrive juste presque au même chiffre. L'Arabie saoudite dépense autant d'argent avec 30 millions d'habitants que l'Inde avec 1,4 milliard. L'Arabie saoudite est le cinquième budget militaire mondial. Oui. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'ils font hein.
Arrive, ils ne savent pas s'en servir.
Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Arrive ensuite le Royaume-Uni, pratiquement à égalité avec l'Arabie saoudite. Ensuite arrive l'Allemagne et l'Ukraine qui est à égalité de dépenses. Alors l'Ukraine où il reste peut-être 25, 30 millions d'habitants, dépense autant que l'Allemagne, 80 millions d'habitants pour sa défense. Mais il faut savoir que, et ça c'est une donnée intéressante, le budget militaire de l'Ukraine, c'est 37% du PIB. C'est-à-dire que pratiquement, hein, tout l'argent qui va partir des États-Unis, il va servir qu'à l'armée ukrainienne. Ah. C'est ça. La France arrive juste après, le Japon un peu moins, puis on a encore quelques petits participants importants, la Corée du Sud, l'Italie, et derrière arrive l'Australie. Alors la Pologne qui se manifeste, son budget militaire a doublé d'une année sur l'autre, donc la Pologne va devenir le bras armé des États-Unis dans l'Union européenne. C'était là-dessus. Et l'Israël arrive quand même 15e, bon dernier sur ce classement, mais a augmenté aussi son budget militaire. Et puis en plus, il va arriver parmi les milliards qui vont destinés à Israël.
Les avions qu'elle a.
Voilà, exactement. Voilà ce que je voulais dire, puisque l'heure arrive que nous concluions. On y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette documentation du CIPRI. On y reviendra la semaine prochaine. On parlera des bases. Et vous saurez, par exemple, je vous le dis, savez-vous, allez, je finis là-dessus, savez-vous combien il y a de bases militaires américaines au Japon ? Il y a 120 bases militaires américaines au Japon. 75. Voilà.
Vas-y.
Ben, tout est à l'avenant. Voilà. Merci, Roselyne, merci de votre attention.
Attends. L'Irlande, ça.